les stations, CD ou tuner comme une impulsion. Allume les instruits, la sonnant dans les squats. Monte le volume et mets les watts. Hey, wow, M, step up, A-I-R.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Depuis plusieurs années, je voyage avec mon micro et je donne la parole aux gens que je trouve inspirants, aux gens que je trouve beaux, aux gens qui incarnent le mouvement, le voyage. L'émission s'appelle donc Regarde ailleurs. Et dans cette émission, c'est Étienne et Émilie Druon que je rencontre au festival Le Grand Bivouac. Donc Étienne et Émilie, depuis plusieurs années, Étienne et Émilie explore l'Amazonie, la forêt amazonienne, un lieu où se mélange paradis et enfer, expériences terrifiantes et parfois moments de grâce. Rencontre avec ce couple d'artistes qui voyagent très souvent en famille. À tous les deux, bonjour. Donc la Guyane depuis le début, Guyane Forever. Donc là on est sur un festival, le festival du Grand Bivouac à Albertville, sur lequel on retrouve des voyageurs, des écrivains, des réalisateurs, des dessinateurs, plein de gens, de belles rencontres à faire. L'émission s'appelle Regarde ailleurs, donc l'idée c'est vraiment de donner la parole aux gens que je rencontre sur mon itinéraire. Cette notion de regard ailleurs, élargir sa vision sur soi et sur le monde à travers des expériences vécues par des voyageurs. Donc avec moi, Émilie et Étienne, on s'est croisés l'année dernière, on était côte à côte dans une session dédicace, on s'est retrouvés sur un festival festival Nomade, le Nomade Festival de Paris, de Cergy Pontoise. Et là, dans une grande salle, j'ai vu ce que tu faisais pour de vrai. Avant, j'avais pas pris le temps. En festival, t'es souvent là, à gauche, à droite, par Mons et par Vaux. Et j'ai vu un personnage qui aime voyager, qui voyage en famille. Avec ses enfants, on en parlera peut-être un peu plus tard dans l'émission, mais on va d'abord s'intéresser à tout l'itinéraire. Donc qui c'est qui veut prendre la parole pour m'expliquer comment le voyage est entré dans vos vies? D'où vient cette envie d'ailleurs? Est-ce que c'est quelque chose qui a été transmis par tes parents, ou est-ce que c'est toi qui très jeune a voulu te libérer des codes sociaux ici en France? Donc reviens sur l'origine de Étienne qui choisit de prendre la route.
Non, alors je pense que moi j'ai toujours depuis gamin, aussi loin que je m'en souvienne, mais vraiment, mes tout premiers souvenirs d'enfance, j'avais déjà une fascination pour les animaux en général et pour les forêts tropicales. Et l'Amazonie, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé dès la petite enfance. Je ne sais pas par quel biais. Le fait d'être natif du Nord, d'avoir passé mon enfance dans l'Artois, sur l'ancienne ligne de front de 14-18, donc quelque chose qui est complètement dévasté, monoculture, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de cours d'eau, pas pollué, il n'y a pas de vie, quoi, il n'y a pas de biodiversité. Et je pense que ça m'a énormément frustré. Et dès qu'on partait, j'étais déjà ailleurs à 30 km de chez moi. Il fallait pas aller loin pour que je parte en voyage. Et je pense que le fait d'avoir très mal vécu mon lieu de naissance et mon lieu d'enfance, et ben j'ai eu qu'une envie très tôt, c'est de partir loin, et puis d'avoir finalement l'opposé de ce que m'offrait ma région d'origine. Donc l'Amazonie, ouais, c'est vraiment arrivé. Je me souviens que à 6 ans je regardais les Cousteau, j'étais fasciné par l'épopée de Cousteau en Amazonie. Et dès que j'ai commencé à avoir un peu d'argent de poche, j'ai économisé pour payer mon billet d'avion pour l'Amazonie.
Quand tu es parti la première fois, tu savais déjà que tu allais dessiner, c'est quelque chose qui t'accompagne depuis toujours?
Ouais. Dessiner, c'est s'occuper, quoi. C'est réfléchir sur un bout de. C'est laisser une trace. Parce que tu peux penser à un truc, mais si tu l'as pas matérialisé sur un bout de papier ou quelque chose ou enregistré, c'est fini. Demain, tu l'as oublié. Donc en fait, le carnet de voyage, c'était déjà un moyen de pas oublier, de me renseigner, d'avoir des infos mises en page et que t'as envie d'aller voir en fait. Puis c'est entre guillemets. Ça peut être un album de vacances entre guillemets, mais ça peut être aussi quelque chose que tu donnes aux autres en rentrant, que tu leur dis bah voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. C'est un excellent outil pédagogique, c'est aussi un moyen de créer du lien avec les gens que tu rencontres. C'est, comme je suis pas du tout polyglotte, c'est aussi un moyen de communiquer. En fait, c'est un gros fourre-tout, carnet de voyage. Et ce qui est bien dans le carnet de voyage, c'est que toutes les notes, mes carnets me servent d'une année à l'autre. C'est-à-dire que je vais prendre mon carnet, j'ai un carnet qui me sert pour tous les voyages, j'arrache les pages, j'en remets, je fais ce que je veux avec. Et dedans, je vais avoir plein d'infos sur les dialectes, par exemple, les dialectes que tu trouves pas, où t'as pas de traducteur pour ça.
C'est aussi un vrai moyen de partage et de transmission, et il y a un public pour ça. En France, il y a plein de gens qui suivent ton travail.
La France, c'est un cocorico quand même. On est au monde, on est les premiers à vraiment avoir mis l'accent sur le carnet de voyage. Ça a commencé par le rendez-vous du carnet de voyage à Clermont-Ferrand, et qui a été précurseur de tout un tas de salons, et on est finalement imité par les pays voisins, hein. On a Di Maggio en Italie, là récemment, j'ai participé au premier carnet, salon du carnet de voyage en Suisse. Donc en fait, de Clermont, il y a toute une émulation qui s'est créée et la France a vraiment une spécialité du carnet de voyage. Et finalement, c'est un art. C'est pas nouveau le carnet de voyage, c'est le premier langage des explorateurs.
Bien avant la photographie.
Bien avant la photographie, les hommes préhistoriques qui partaient en campagne de chasse, ils rentraient pas tous les soirs chez un. Donc ils gravaient leur campagne de chasse sur les os du gibier qu'ils avaient tué, donc ils gravaient comme ça les scènes de chasse. Donc c'était une première forme de carnet de voyage, et on a retrouvé cette gravure à l'os sur les campagnes des baleiniers, les chasseurs de baleines qui, en fait, il y a énormément de temps mort, et donc ils gravaient, c'est ce qu'on appelle le scrimshaw. Donc finalement c'est vraiment très 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 ancien comme art, c'est l'art du voyage en fait. Les naturalistes, les gravures de Buffon, enfin c'est vraiment, il n'y avait pas la photo, donc il fallait communiquer autrement, il fallait occuper aussi son temps libre autrement.
Et cette envie, comme tu disais, de tout temps, l'homme a voulu laisser sa trace.
Ouais, et, parce que les gens meurent, mais les œuvres restent en général, un peu plus longtemps en tout cas. Hein.
Émilie, je vais m'intéresser à toi. Comment ça se passe de voyager avec quelqu'un qui dessine ? Parce que ça prend du temps. Il y a cette notion de se poser quelque part et de commencer à dessiner. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps ? Comment c'est de voyager avec un carnetiste ?
Alors moi, j'aime prendre mon temps. Alors après, on a une formation tous les deux. On s'est rencontrés aux Beaux-Arts. Donc voilà, je ne suis pas étrangère à ce qu'il fait. Après, moi, je l'occupe en écrivant. Voilà. Et puis, je pense que je suis quelqu'un de très contemplatif. Donc en fait, voilà, c'est vraiment des moments où on se retrouve et observer la beauté du monde. De toute façon, ça fait partie de ce que je suis. Et puis, comme ensuite, passer le temps où on n'était que tous les deux, il y a eu l'arrivée des enfants, évidemment. Après, ils prennent du temps aussi, mais en même temps, ils dessinent, on crée ensemble. Donc voilà, d'une aventure à deux, on est passé à quatre. Et voilà, comme on est relativement créatifs tous, on se retrouve, on se laisse. Mais on est, je pense, tous très contemplatifs, donc on se nourrit. Voilà. C'est vraiment aller à la rencontre, en fait. C'est sortir de son quotidien. Et encore, on peut voyager en faisant quelques pas en dehors de chez... En fait, c'est une manière de regarder le monde, c'est tout. Et après, pour celui qui a envie d'en faire œuvre, voilà, après, c'est une manière de... Ça permet de raconter le monde, quoi. Voilà, donc c'est juste aller à la rencontre, voilà.
Ah, le voyage, c'est de l'humilité. Tu redescends... Je pense qu'on ne se rend pas bien compte de... Je reviens sur une phrase que j'ai entendue. C'était « Les Français vivent au paradis, mais ils ont l'impression qu'ils sont en enfer. »
Sylvain Tesson.
Voilà.
Et, la France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer.
Voilà, plus près. Bah, elle est, moi, je trouve qu'elle est, elle est pleine de bon sens, parce que voyager, ça te permet de voir effectivement tout ce qu'on bénéficie. Ça permet d'être moins râleur. Ça remet les choses en place. Moi, chaque voyage, pour moi, c'est une grosse dose d'humilité que je reprends. Et ça me fait du bien quand je rentre dans mon quotidien. J'ai eu une culture du recyclage, de l'anti-gaspi, probablement aussi grâce au voyage. Ça change mon regard. C'est de la tolérance. Tu vois les choses différemment. T'es capable d'adopter tous les points de vue, en fait. Ça apprend vraiment la tolérance, en fait. Moi, ça m'a vraiment enrichi là-dessus.
Cette manière de revoir son système de pensée, son système de croyance, et de se rendre compte que finalement la vérité, elle est multiple, et sa vérité à soi ne fonctionne pas forcément dans un système de pensée autre que le nôtre. On parlait de voyage, donc vous avez commencé à voyager à deux, maintenant à quatre. Qu'est-ce que ça change de voyager en famille? Quelle différence est-ce que tu as vue, et comment est-ce que vous vous organisez? Parce qu'il y a quand même ici un métier en France, il y a une année scolaire ici en France, donc vous retournez chaque année?
Pour commencer, c'est intéressant, ça nous a permis, alors Étienne est très fort pour ça, je l'admire, on voyage toujours à l'économie, voilà, tout est empilé, tout est parfaitement calibré, donc comment est-ce qu'on met sa maison sur le dos? Donc ça, c'est génial, ça change aussi son système de pensée. Ensuite, ça permet...
Tu es en train de me dire que je sais bien ranger mes affaires.
non, il sait bien faire des bagages, parce que sinon il s'étale, mais c'est génial. Donc non, mais on revoit notre manière de fonctionner, donc quand tu dois avoir ta petite maison sur le dos et qui plus est assurer la sécurité de tes enfants, mais finalement nos enfants, ils n'ont pas besoin de grand chose, donc c'est chouette. Et ensuite, bah après, on a fait le choix d'être enseignants tous les deux, donc en art, donc c'est bien, ça permettait de... c'est un choix qu'on a fait parce que on aime transmettre, je crois, d'abord, et puis on avait besoin voilà, d'un rythme qui nous permettait de travailler autrement quand il y a plus court, donc on a un petit peu de temps, et donc c'est sûr qu'avec l'arrivée des enfants, les grandes vacances prennent tout leur sens, donc ça nous a permis de garder ce rythme de voyage qu'on n'aurait peut-être pas pu garder effectivement si on avait eu d'autres métiers. Je dis pas que c'est pas un métier chronophage, ça l'est, mais ça permet voilà, de s'organiser, c'est chouette, ça, c'est bien.
Mais il n'y a pas cette envie des enfants de rester ici en été pour profiter des copains?
Eh ben non, parce non. Il y a une année où notre fille a eu un petit coup de mou, c'est bien tombé, c'était l'année du Covid où on n'a pas pu partir, où là elle commençait à dire oh, j'ai envie de voir autre chose, j'ai envie de faire autre chose, donc on a dit pourquoi pas. Puis il y a eu le Covid, donc on est resté, c'est le premier été où on est resté. Et finalement l'année suivante, on a eu le petit message qu'on attendait, c'est oh, faut qu'on parte. Donc eux, en fait, ça y est, ils ont besoin aussi de cette parenthèse là, et finalement ça fait partie de notre vie, en fait. Voilà.
Étienne, Émilie, avant de parler de cette fameuse destination qu'est la Guyane, d'entendre quelques-unes des croustillantes anecdotes que j'ai pu lire dans certains des interviews, une question me brûle les lèvres. Mais pourquoi toujours retourner là-bas alors qu'on vit sur une planète diverse et variée?
Alors, je ne suis pas du tout quelqu'un de superficiel. Et en fait, j'aime bien approfondir. Et ça, c'est super important. La Guyane, de toute façon, c'était un rêve de gamin déjà. Donc ça a été une vocation. Je suis allé ailleurs. Hein. J'ai fait plein d'autres pays. Mon premier voyage intercontinental, ça a été le Canada d'ailleurs. À mon grand regret d'ailleurs, parce que je voulais partir en Guyane, et puis en fait j'ai fait partie d'une sélection pour un championnat du monde en kayak, et mon premier voyage sur le continent américain, ça aurait été au Canada. Mais la Guyane, c'est une porte d'entrée, parce que de la Guyane tu peux aller au Brésil, tu peux aller au Suriname, tu peux aller au Guyana, qui sont deux pays que personne ne connaît, qui ont la densité la plus faible au monde et qui sont extraordinaires. C'est vraiment une porte d'entrée. Quand on va en Guyane, on reste pas en Guyane. On franchit toujours la frontière pour passer au moins au Suriname ou au moins au Brésil. Et après, on s'interdit pas non plus de voyager ailleurs. Hein. Ça m'arrive de partir deux fois dans l'année. Mais il faut que j'ai ma dose de Guyane. C'est vraiment là où je suis le mieux. Et puis j'ai les gens aussi. J'y suis allé pour l'Amazonie, je reviens pour les gens. On a créé des liens qui sont difficiles, qui sont longs, quand on est métro en plus, qui sont longs à établir avec les Hmongs, les anciens réfugiés, les réfugiés du Laos, avec les Amérindiens. Les Amérindiens, c'est encore plus long à faire comme lien. En plus, on n'a jamais été intrusif. On est sur le long terme en fait. On est des marathoniens de la rencontre entre guillemets, parce que on va se rendre, les Amérindiens c'est ça, on va se rendre dans un village, on va rester quelques jours, on va dessiner, on va poser des questions, on va s'intéresser, mais vraiment très discrètement. Et puis voilà. En général, ils nous snobent un petit peu, beaucoup. L'année d'après, on fait pareil, ils nous snobent un petit peu moins. Et puis la troisième année, ils vont se dire, mais on les connaît ceux-là, ils sont déjà venus l'année d'avant. Bon, puis ils dessinent, et puis ils posent des questions, et puis ils nous disent bonjour en Kalina maintenant, tiens, c'est étrange. Et de fil en aiguille, eh ben, on arrive à percer les carapaces.
De la partie carnétiste, mais je crois qu'il y a aussi une partie plus aventurière et plus sportive, hein. Tu disais aussi kayak, hein, donc champion du monde de kayak au Canada, je crois qu'on disait que tu fais du trail aussi, enfin voilà, il y a aussi derrière le voyageur, le dessinateur, une sorte d'aventurier.
Le physique il est indispensable, parce que ça t'aide quand même c'est un climat qui est particulier, t'es pas en assistanat, quand tu pars en forêt t'as des fois 20 kilos sur le dos. Ma condition physique elle est ultra importante, hein. C'est même elle qui m'a sauvé une fois, hein. Donc c'est moi j'ai besoin de ça. Et puis de toute façon tu vis mieux le voyage si t'as la caisse, si tu récupères bien, si tu fais une journée fatigante, quand tu as le trajet en avion, etc., tu rentres. Moi je vais être d'attaque tout de suite, j'ai pas de temps à perdre. Et puis si je passe une journée un peu crevante, je vais pas devoir la comater le lendemain parce que j'ai pas la caisse physiquement. Donc non, moi c'est pas des vacances reposantes du tout, voyager. Hein. Je rentre lessivé, je rentre complètement à plat, avec je sais pas combien de kilos en moins. Mais waouh, ça m'a redonné une impulsion pour plein d'autres choses. Et puis 3-4 semaines de voyage, ça me donne 11 mois d'inspiration dans mon travail.
Donc c'est vrai que voyager, c'est pas forcément prendre des vacances, c'est souvent une mise à l'épreuve. Tu disais la condition physique est importante et t'as sauvé la vie. Une histoire que tu as beaucoup racontée, que je vais pas te demander de raconter, c'est Émilie qui va la raconter pour changer. Voilà. Parce que j'imagine que toi t'es bien rodée, je sais pas si Émilie est rodée pareil.
Ça va très bien.
si. Alors quelle est donc cette histoire ?
Eh bien, nous étions partis un été. C'est le dernier voyage qu'on avait prévu de faire. Donc, notre fille était toute petite. On n'avait pas encore le deuxième. Et on s'était dit, bon, allez, dernier voyage tous les deux avant d'emmener la poulette. Bon. Nous sommes arrivés à Cacao, donc notre point de chute, là où sont nos amis Bruno et Tia. Donc c'était le premier soir, tout allait très bien, le village était paisible, et nous, on devait aller voir une séance en plein air de cinéma, donc première soirée tranquille. La bobine du film a cassé, donc nous sommes rentrés manger, et puis bon, moi j'ai retrouvé mon amie Tia, donc on discutait, on papotait, moi j'adore la Guyane pour ça, hein, c'est plein d'amis et de la bonne nourriture. Et puis Étienne, bah, à l'appel de la forêt, première soirée, donc il s'est dit, allez, je vais faire mon petit tour en forêt tout seul. On lui a dit, va. Et il n'était pas tard, donc il est parti plus tôt que prévu. Et puis, bah, en fait, sur un sentier qu'on connaît très très bien, il a eu le malheur de croiser un chasseur revenant en bredouille. Et bon, après, problématique de chasseur, voilà, il a confondu la lampe frontale avec l'œil d'un jaguar. Enfin, après, c'est ce qu'il nous a raconté. Et puis, en fait, bon, il lui a tiré dessus. Donc, il a pris une balle dans la mâchoire. Et voilà. Et donc, en fait...
Donc, en pleine forêt, dans un milieu particulièrement hostile, Étienne, avec sa frontale, se fait passer pour un jaguar, en tout cas aux yeux d'un certain chasseur qui lui tire dessus.
Voilà, oui. Alors, pas exactement. Là je pense que c'est techniquement Étienne qui va prendre le relais sur l'impact de la balle, parce que sinon, je vais dire des bêtises. Bref. Et en fait, c'est un miracle, puisque rien que le choc aurait dû le tuer. Enfin, la trajectoire de la balle, le chirurgien, ensuite il a été très très vite pris en charge par le chasseur qui a complètement assumé, qui l'a apporté à la gendarmerie, les pompiers, l'ambulancier, l'arrivée à l'hôpital de Cayenne et le diagnostic. Et je me souviens donc du chirurgien, le docteur Reynaud, qui est venu me voir, qui a soupiré un grand coup en me disant, bon, c'est un miracle. Et là, il m'a expliqué que la balle était passée comme ci, comme ça, qu'elle avait fumé les vertèbres, qu'elle était passée entre l'artère machin, l'artère bidule, enfin bon, bref, et qu'il était en vie et que c'était un miracle. Et puis ensuite, il est parti au bloc. Donc voilà, donc c'est une histoire bien étrange, parce qu'il y a tout un parcours autour du jaguar. Étienne avait déjà croisé un jaguar l'année d'avant. Enfin bref, il y a tout un mythe qu'on a créé autour de tout ça. Mais la leçon est que il n'est pas mort et que sa vie est un miracle. D'ailleurs, quand il a croisé beaucoup plus tard un médecin, mince, je vais avoir un trou de mémoire, traumatisme par rapport à son traumatisme balistique, il lui a dit, un médecin légiste, voilà, qui officiellement ne voit que des gens morts, il lui a dit, la question n'est pas de savoir pourquoi
non,
vous...
Non, il a dit, vous êtes le premier trauma balistique facial que je vois vivant.
Voilà, et la question était de savoir, c'est pas pourquoi il est
et
vivant,
après,
mais pourquoi...
Dans 5 ans, je suis à la retraite.
La question est de savoir, c'est pas pourquoi vous êtes vivant, mais pourquoi vous n'êtes pas mort. Bon, bref.
Qu'est-ce que c'est d'être miraculé ?
Ouais, tu t'en rends pas compte, en fait. Parce que t'es toujours vivant, donc finalement, t'es... Non, franchement, je m'en rends pas compte.
Et l'impact d'une balle, qu'est-ce qui te reste ? C'est quand même un moment fort dans une vie de se prendre une balle dans la tête.
Ouais, surtout que tu restes conscient. Je suis jamais tombé dans les pommes, j'ai jamais eu de coma. Donc ça, c'est un petit truc un petit peu incompréhensible. Ouais. Mais en plus... Alors, je l'ai pas pris dans la mâchoire, je l'ai pris en pleine face. Hein. Je l'ai pris...
Oui, c'est après.
En fait, la mâchoire a servi de déflecteur. Et c'est ce que me disait ma dentiste. La mâchoire, c'est l'os le plus solide du corps humain. Et en plus, il est incurvé, donc il a fait déflecteur. Et la balle est allée finir sa course dans la cervicale, en fait. Donc je l'ai toujours dans la cervicale. Et donc ça fait déflecteur. Bon, elle est complètement fracasse, mais elle a fait le job. Mais après le miracle, moi je l'ai plus quand je discute avec les médecins, parce que je suis toujours étonné de voir des médecins étonnés. Et quand tu vois le corps médical, donc les spécialistes, les gens qui traitent ça, qui sont toujours un petit peu ébahis par ce qui est arrivé, c'est là que tu comprends que ah ouais, non mais quand même, parce qu'on est tellement formaté de films où tout le monde se fait tirer dessus et tout le monde survit à la fin, et on se rend pas compte de la puissance d'une arme à feu. Elle est facile à traduire. Hein, là. C'est un autobus dans la gueule. Je me suis pris, j'ai l'impression d'avoir passé la tête un petit peu trop en attendant le bus, et boum. La violence, c'est vraiment ça comme violence. Et puis après, les miracles, c'est. En fait, moi j'ai la chance de savoir, on se demande tous. Comment on réagirait face à ça? On a tous dépensé un petit peu la peur de la mort. Moi, j'ai la chance de savoir comment je réagis face à ça. Et finalement, de l'avoir accepté, d'avoir un moment accepté de mourir. Et ça, c'est quelque chose qui m'apaise pour plein de choses, en fait. D'avoir été capable de...